Vous écoutez
RMC. Après les joueurs moyens hier qui ont fait une grande carrière, ce soir, les bad boys, ces fameux joueurs très durs sur l'homme, les bouchers comme certains les appellent, les joueurs les plus rugueux de l'histoire. Envoyez-nous des noms, vos équipes types sur le RMC Live ou sur Direct Studio. Il y a déjà beaucoup de propositions, évidemment. Tufting, le Danois, ni Damien Leti, Roy Keane, Van Bommel, Gattuso, Stefan Effenberg. Ce qui n'empêche qu'on a des joueurs élégants et des joueurs très forts également. On peut être un excellent joueur et un joueur très dur sur l'homme. Lionel, t'as un joueur en tête d'ailleurs?
Ah oui, moi j'en ai un. J'allais pas te parler de Rino parce que j'en ai un pire que Rino, mais avec lequel j'ai joué, qui était très compliqué à manager. C'est pour ça que je voulais t'en parler. C'était Taribo West.
Ah oui.
Que j'ai eu devant moi et malheureusement, enfin, et très fier de l'avoir eu devant moi.
Hein, parce méchant, Taribo West.
Oh putain. Et non seulement il était dur sur l'homme, méchant. C'était pas fait avec méchanceté. C'était fait avec parce que il arrivait justement. Je voulais en parler.
Ou c'était vraiment calculé.
Il arrivait pas à anticiper quand il arrivait à Auxerre. Il arrivait avec sa culture nigériane et donc il n'arrivait pas à anticiper ce football européen. Et donc il était souvent, quand t'anticipes pas, tu subis. Et quand tu subis, vu la masse physique qu'il avait, la vitesse, la force musculaire qu'il avait, je peux te dire que un petit peu en retard, c'était coup franc à chaque fois. Alors des coups francs qui faisaient mal, parfois, pas souvent, qui faisaient mal, mais surtout une plénitude de coups francs et de pénalties. Et c'est pour ça que je voulais te parler de Taribo, parce que Taribo, souvent, moi j'ai l'habitude de dire qu'un bon gardien, il arrête les buts avec la voix. Donc tu places tes pions. Et en plus, Taribo ne parlait pas français. Donc j'étais obligé de me mettre à l'anglais en lui disant doucement, doucement. Je voyais qu'il allait intervenir. Donc j'avais 80% sur la phase défensive. Quand je plaçais mes pions, j'étais focalisé à 80% sur Taribo, sur ce qu'il allait faire pour et commencer à le placer pour anticiper.
Tu devais gérer aussi Taribo en plus de ton but, quoi.
Tout ça, tu gères tous les joueurs. Mais Taribo, c'était 80% de tout le monde. Et à chaque fois, il arrive en retard. Et donc, comme c'était en plus à un moment donné dans l'évolution du football où il y a eu cette importance des coups de pied arrêtés et notamment les coups francs où on faisait énormément de coups francs à l'entraînement et tout ça parce qu'on s'est aperçu que c'était prépondérant sur le résultat du final. Je peux te dire qu'on à chaque fois on prenait des coups francs mais un truc de fou quoi. Et t'avais beau le dire et d'ailleurs il a terminé, il a signé après, il a fait une très belle carrière. Attention, un grand joueur. Après il s'est calmé et tout, il a appris, il est allé à l'Inter, mais il a été viré de l'Inter, il me semble. Il a été viré de l'Inter parce qu'il est en 99, il a été faire un tacle là-bas sur le côté droit, je sais plus contre qui c'est, j'ai l'image mais j'ai plus l'équipe. Je peux te dire, il a découpé le joueur, il a cassé le fémur.
Donc là, fracture, on est dans le cas d'un faux méchant finalement, Lionel.
Oui, c'est des vrais méchants
ou
c'est un mec dur sur l'homme. Non, dur. T'as des joueurs comme ça qui font mal. Je te promets, ils te touchent un petit peu et te font mal. Et ouais. Ça, ce sont des joueurs durs. Alors si peu que voilà, ils sont un petit peu en retard et tout ça. Et je peux te dire que les joueurs, moi j'en ai vu plus d'un, l'attaquant arriver, voir Taribo arriver sur eux, tout de suite il levait le pied, il s'arrêtait, la course se ralentissait, il disait oh là là, j'y vais pas. Et t'as besoin aussi de mecs comme ça, de les avoir dans ton équipe. Hein. Ça fait du bien. Hein. Je peux te dire.
Ça fait du bien. Coach, t'étais un joueur dur, toi, ou pas ?
Non.
Non, pas spécialement ?
Non, on avait une stratégie, c'est-à-dire de mettre une emplâtre en tout début de match.
C'est culturel, ça.
Oui, non, c'était une stratégie pour qu'après l'adversaire soit impressionné tout le restant du match, mais tout le restant du match.
Déjà dans le tunnel, coach.
Il y avait que des menaces verbales, donc. Mais c'est vrai qu'il y avait une intervention virile d'entrée dans les cinq premières minutes. Tu étais sûr de pas prendre de carton rouge. À la limite, peut-être
un jaune,
grand maximum. Et puis, bon, et après, l'adversaire était quand même diminué parce qu'il était un peu
échaudé. Mais bon,
vous partagez ce rôle-là, non ?
Ouais, mais il y en avait quand même, il y avait des adversaires qui se dégonflaient, d'autres non.
Ah oui, bien sûr, c'est retourné au mastic.
Mais bon, par contre, j'ai connu dans une certaine époque, et notamment dans les années 70, quand je démarrais ma carrière professionnelle, du côté de Lyon, il y avait une paire d'arrière centraux, Baeza, Mihailovic. Alors là, sincèrement, c'était carrément des assassins. C'est-à-dire que là, j'aurais vraiment pas voulu jouer attaquant de pointe avec cette charnière centrale. Et un garçon comme Josip Skoblar ne se dégonflait jamais contre ces deux assassins. C'était injouable. Donc Domenech qui lui démarrait, mais bon, avec la moustache, il voulait un petit peu être à la mode des deux arrières centraux. De l'autre côté, il y avait un dénommé L'Homme. Là, ces joueurs-là, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était vraiment des joueurs, comment je pourrais dire, inquiétants,
plus qu'intimidants, inquiétants.
Après, si tu veux d'autres, bon, évidemment, dans la période Dimeco, mais Dimeco, c'était avant tout un bon joueur avant de vouloir avoir cette réputation de joueur dur, machin, etc., qui est une réputation qui l'a obligé de continuer à l'être jusqu'à la fin de sa carrière. Mais il y avait à l'époque d'Eric, tu lui poseras la question, un dénommé Moser. Ah oui, sincèrement, qui était pour moi plus inquiétant qu'Eric. Moser, dans la préparation d'un match dans la semaine, demandait au staff médical de voir un petit peu si l'attaquant là qui relève de blessure, c'était quoi comme blessure. C'était cheville droite, cheville gauche, genou gauche.
Grande question, est-ce que ça fait partie du jeu?
C'était très inquiétant.
On va en parler évidemment, il y a beaucoup d'appels déjà au 32-16 pour évoquer les bad boys, les joueurs durs, rugueux sur l'homme dans l'histoire du foot. Tiens, puisqu'il y a une équipe qui symbolise plus que toute autre dans l'histoire du foot, elle est anglaise, on a appelé Julien Laurent. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Notre correspondant bien sûr en Angleterre. Tu vas bien Julien d'ailleurs?
Très bien, merci.
Tout va bien? Ouais, très confinement, bien. Tout va bien. Bon, Julien, évidemment, quand on pense à pas un joueur, mais une équipe qui incarne plus que toute autre cet aspect-là, j'allais dire du jeu en tout cas, d'une philosophie du football, c'est le Wimbledon Football Club.
Exactement, tu as raison, cette période où Wimbledon et sa fameuse équipe, hein, le Crazy Gang, qui avait été surnommé comme ça par John Motson, qui était un petit peu le Thierry Roland de la télévision anglaise pour les commentaires de foot après leur victoire en finale de la Coupe d'Angleterre, victoire surprise contre Liverpool en 88. Donc ce fameux Crazy Gang, on va dire entre 1904, début des années 86, c'est quand ils montent en première division, mais ils ont quatre années successives de monter de la quatrième division à la première division. Donc on va dire entre 82 et 92-94 quand les très très méchants commencent à on finit son aller. Mais effectivement ces années-là, c'était l'année où Wimbledon FC et ce Crazy Gang donc ont causé la terreur sur tous les terrains, à domicile surtout, mais à l'extérieur aussi.
Ils se servaient de la raquette de Wimbledon, mais pas de la même façon.
Mais c'était un choix.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Mais c'était un état d'esprit, c'était quelque chose d'assumé, c'était un choix, c'était une philosophie.
Tout à fait, c'était exactement ça. C'est vrai, c'était qu'à un moment, quand ils étaient en quatrième division, ils sont montés en troisième division en 81, ils redescendent en quatrième division, et là, ils disent, pour s'en sortir, il faut un, qu'on joue long, qu'on commence à jouer long, et deux, qu'on soit très agressif et très méchant. Ils ont aussi recruté, donc, pour commencer, pour moi, le plus important, parce qu'effectivement, ils sont très méchants et ils sont très agressifs et tout ça, et c'est pas du très beau football, mais c'est surtout, c'était une équipe de revanchards. C'est des joueurs, ils sont allés chercher des joueurs comme Vinnie Jones, comme John Fashanu, que personne ne voulait. Dans les équipes de jeunes, centres de formation, personne n'en voulait. Ils étaient toujours montrés du doigt parce qu'effectivement, ils étaient pas les plus habiles techniquement.
C'est pas arrivé par hasard.
Non, pas du tout. Donc ils ont construit cette équipe de revanchards, des joueurs avec un état d'esprit incroyable. Et cet état d'esprit, finalement, c'était de la camaraderie à la base. Mais une camaraderie, et dans les exemples que je vais vous raconter, qui sont allés chercher très très loin quand même. Par exemple, tous les matins, ils faisaient un footing. Ils allaient faire un footing en forêt, pas loin de... Ils n'avaient pas son entraînement, mais c'était là où ils s'entraînaient. Et celui pour qui c'était l'anniversaire, ou celui qu'ils avaient un petit peu envie d'embêter, et ben, il finissait à poil. À un moment, il lui tombait dessus dans la forêt. Ils enlevaient toutes ses affaires, et le mec finissait tout nu dans le groupe, mais il était tout nu, il rentrait comme ça pour finir l'entraînement. C'était habituel qu'il cloue par exemple tes chaussures si tu venais d'arriver au club, il clouait tes chaussures au sol, ou il mettait de la crème chauffante dans ton caleçon pendant que tu t'entraînais. Comme ça, après la douche, quand tu remettais le caleçon, eh ben forcément tu peux t'imaginer que le zizi et le cul qui brûlaient. Voilà, ils avaient ce genre d'initiation comme ça, ce genre de bizutage. Et Vinnie Jones avait l'habitude de dire, si tu peux pas prendre tout ça, eh ben t'es pas chez toi ici, tu peux dégager. Et c'est vrai qu'ils avaient, ils ont créé cet état d'esprit.
Non, mais ils ont créé cet état d'esprit coach. Relevé là-haut.
Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'après une fois sur le terrain, ils avaient peur de rien. Ils avaient un degré d'unité assez incroyable. Ça veut dire qu'ils se battaient les uns pour les autres. Il n'y avait jamais quelqu'un que tu laissais derrière. T'abandonnais personne. C'était une vraie mentalité de guerrier finalement, d'armée.
Trois, quatre joueurs qui étaient quand même au-dessus des autres, ou c'était les 10, enfin les 11 pareils?
Non, t'avais deux. Alors,
T'avais Denis Suarez,
bien sûr, Billy Jones. Non, alors t'avais John Fashanu. John Fashanu, ouais, qui était l'attaquant, qui faisait 1m90, grand, noir, costaud, rapide, plutôt bon techniquement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais surtout, c'était lui il jouait dos au but beaucoup, il balançait de longs ballons devant, et lui faisait des déviations et tout ça. Et lui, c'était le chef de guerre. Et lui, par exemple, disait toujours, pour gagner le respect, il faut faire peur. Donc il faisait peur. Lui et Vinnie Jones, qui était le milieu de terrain emblématique aussi, Vinnie Jones, le fameux Vinnie Jones qui attrape les couilles de,
ah ben ça, c'est la photo mythique,
de Paul Gascoigne. La photo mythique, exactement, en contre Newcastle. Parce que avant chaque match, il regardait l'équipe adverse, les 11 titulaires, et il disait voilà, c'est lui qu'il faut impressionner, c'est lui qu'il faut dominer tout de suite. Et il rentrait, et au bout de, comme tu disais, coach, tout à l'heure, au bout de 2 minutes, il lui avait mis un coup de coude dans les côtes ou au niveau du visage, il prenait les cartons jaunes, mais ils en avaient rien à faire, ils savaient très bien qu'ils avaient fait le travail sur le plus talentueux de l'équipe adverse. En l'occurrence, Paul Gascoigne à Newcastle. Et par exemple, dans le tunnel à domicile avant les matchs, Fashanu et Jones faisaient des allers-retours comme ça en dévisageant du regard les 11 adversaires et en disant, en les insultant au mieux que possible, toi je vais te défoncer, toi ta mère c'est une... Voilà, exactement. Et comme ça, ils montaient, ils redescendaient comme ça, les 5 minutes avant de sortir sur le terrain dans le tunnel, et ils insultaient tout le monde, c'était assez hallucinant. Et c'est vrai que c'était d'état d'esprit.
Mais ça a marché en plus, finalement, Julien, parce qu'ils se montaient 3 fois d'affilée. Ils sont ici en finale de la FA Cup en 88, qui gagnent contre Liverpool en plus, avec un style de jeu hyper rustre, quoi. Hein. On balance des ballons et on cogne.
Exactement, il marque sur coup de pied arrêté d'ailleurs. Hein. C'est pas une surprise, un but de la tête sur coup de pied arrêté. La veille du match, ils savaient pas trop quoi faire. Alors ils avaient une grande habitude en fait quand ils arrivaient à l'hôtel les veilles de match à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils allaient dans la chambre de l'entraîneur Bobby Gould, ils prenaient son lit et ils le jetaient de l'étage où ils étaient, donc troisième étage, ils le jetaient par la fenêtre, quatrième étage. S'il y avait une piscine, c'était encore mieux parce qu'ils le jetaient dans la piscine. Et donc Bobby Gould à chaque fois devait demander un autre lit.
Ah, on n'a jamais
fait
ça aussi,
à la veille du match. Non, tu vois,
on a fait ses coups, mais pas celui-là.
Et donc, ils savaient pas trop quoi faire la veille. C'était quand même le match le plus important de leur vie, de leur carrière. Et donc, Bobby Gould leur avait dit, tiens, je vous donne un peu d'argent, allez au pub. Et donc, ils étaient allés au pub, ils avaient retrouvé plein de supporters de Wimbledon. Ils étaient allés au pub jusqu'à pas d'heure la veille du match. Et le lendemain, ils avaient quand même battu la grande équipe de Liverpool. En plus, en arrêtant Dave Besant, avait arrêté un penalty de John Aldridge en finale. Mais c'est vrai que ça avait marché parce que ils avaient impressionné beaucoup les joueurs de Liverpool. Déjà, ils étaient les gros outsiders. Personne ne croyait en eux. Et je pense que ça leur avait donné encore plus de motivation de se dire, on va vous montrer qu'on est capable de gagner ce genre de match. Ils avaient mis des coups dès les 5 premières minutes un peu à tout le monde, surtout à John Barnes notamment, que Denis Suarez, ils avaient muselé comme jamais. Et c'est vrai que ça avait fonctionné. Après, c'est une équipe, effectivement, tu l'avais dit, long ballon, beaucoup de centres pour Fashanu, qui était donc très bon dans les airs, forcément, 1m90. Cette intimidation qui marchait.
Mais c'est ça la question, Julien. Je me dis qu'aujourd'hui, ce serait pas possible. Enfin, les arbitres ne réagissaient pas. Parce qu'on parle de Vinnie Jones, qui a le record du carton jaune le plus tôt dans un match, hein, au bout de 3 secondes.
Le plus rapide, c'est ça.
3 minutes, même pas 3 secondes, je crois. Hein.
Voilà,
coup d'envoi,
c'est ça, ouais,
qui prend le jaune.
3 minutes, exactement.
3 minutes,
oui. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que les arbitres étaient beaucoup plus faciles et plus impressionnables à l'époque. Et surtout, étaient beaucoup moins disciplinaires qu'aujourd'hui, je pense, effectivement. Donc, tu pouvais facilement, c'était à l'ancienne. Tu pouvais mettre des tacles à la gorge, ils prenaient qu'un carton jaune à cette époque-là. Et donc, pour eux, c'était parfait. Ça allait très bien dans leur sens. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils auraient fini à 8 après une demi-heure de jeu. Mais à l'époque, ça, c'était encore plus ou moins la culture anglaise aussi. Ça faisait partie du folklore local. Et c'est vrai que, notamment à domicile, les arbitres n'osaient pas trop sortir des cartons rouges. Et Fashanu et Jones,
c'est
souvent qu'ils pouvaient impressionner les arbitres.
À l'extérieur aussi, ils faisaient les marioles de la même façon?
Alors à l'extérieur, ils avaient une très grande coutume, c'est ils avaient un ghetto plaster, tu sais, ces grands trucs de musique là, qu'ils emmenaient partout, et ils mettaient ça à fond, et notamment à Manchester United à Old Trafford. Sir Alex Ferguson déteste, mais c'est, pour lui c'était horrible, il détestait ça, et il mettait ça le plus fort possible pour faire chier tout le monde. En fait, c'était incroyable, partout où ils allaient, c'était comme ça. Alors à domicile, c'était pire, ils mettaient du sel par exemple dans le thé, ils apportaient du thé aux équipes adverses, ils mettaient plein de sel dans le thé. Il y avait pas d'eau chaude, enfin tu vois les trucs habituels, ils mettaient du papier toilette partout dans les vestiaires, c'était jamais lavé, ça puait, enfin c'était incroyable. À l'extérieur, ils utilisaient un petit peu d'autres stratagèmes, mais c'est vrai, c'était tout dans cette mentalité là.
Willy, ça marcherait pas aujourd'hui un style comme ça, franchement.
Non. Non, ça pourrait pas, non. C'est impossible avec la vidéo, avec. Ah oui. Mais tu le vois, mais même les profils des joueurs, c'est plus du tout ça. Il y a plus de sur les terrains, il y a plus de méchanceté. C'est même aujourd'hui, même
c'est
les.
C'est même l'inverse.
voilà, c'est même. Il y a, je trouve qu'il y a beaucoup plus de naïveté qu'avant. Mais je pense que c'est très bien aussi. Parce que du coup, ça laisse la part belle au jeu. Tu vois, il y a moins de le foot est moins haché, il est moins, il y a plus de jeux en continu. Donc moi, je préfère largement ce qui se passe aujourd'hui que ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans.
Voilà, Julien, merci pour cette histoire que tu nous as magnifiquement contée. Wimbledon FC, c'est mal avec terminé plaisir. Après. Le club n'existe plus. Enfin, si, maintenant, il a changé de nom. Hein.
C'est ça. Il a changé de nom. Il a été dissous d'abord. Ils l'ont relocalisé à Milton Keynes, qui est à 1h30 en voiture de Londres. Et puis les vrais supporters, le noyau dur, ont recréé un Wimbledon FC qui est maintenant en 4e division. Donc il est encore là, le club, mais pas vraiment comme on l'a connu avant. Et puis la victoire de 88 en Coupe d'Angleterre a aussi, parce qu'il y avait quand même des bons joueurs. Denis Wise, il était méchant, mais c'était quand même un très bon joueur. Il a fait du très bon travail à Chelsea après. Donc voilà, les meilleurs joueurs sont quand même partis. Jusqu'en 94-95, ils ont plutôt été bons. Et puis après, la première descente, ils sont plus jamais remontés. Et ça a été beaucoup plus con à appeler. Mais il y a un très joli documentaire fait par BT Sport en Angleterre, qui est peut-être disponible sur YouTube, je sais pas, ou en tout cas sur Internet quelque part. Voilà, qui raconte cette histoire. Ils se sont beaucoup anglais sur effectivement, le côté méchant, en oubliant qu'ils avaient quand même fait des choses un peu plus positives, mais c'est un très beau documentaire quand même.
Ben Jones, qui est devenu acteur après, hein, évidemment, il a joué dans
Un crime
botanique et dans Snatch notamment. Merci Julien.
Exactement.
Excellent soir.
Merci les gars,
toi.
Bonne fin d'émission.
À très vite dans l'After Mission. Tiens, j'accueille au 32-16. On va commencer par Kader. Salut Kader.
Salut tout le monde.
Salut Kader.
Salut Kader.
Alors Kader, si t'as un joueur qui te vient en tête, un joueur bad boy casseur.
Moi j'étais dans mes anciens souvenirs. Bon, j'avais 14 ans je crois. Je me rappelle d'un match l'Espagne-l'Algérie sur un joueur qui s'appelait Goycochea. Voilà. Il jouait à l'Atlético Bilbao, qui a cassé deux côtes au gardien algérien sur un corner je crois. Je crois il est sorti après. Et n'oublions pas le tackle sur Maradona par derrière. Je sais pas si vous vous rappelez de ça.
J'ai pas
d'ailleurs après il y a eu l'embrouille après Maradona. D'accord. Donc c'est celui-là que j'ai trouvé dans mes anciens souvenirs. Et après bon on a Gattuso.
Ouais.
Gattuso. J'ai pas trop de. J'ai Nainggolan. Nainggolan. Son dernier tackle c'était sur Rapinha. Je sais pas si vous vous rappelez Barcelone à Roma.
Oui.
J'ai Ramos.
Mais alors, Gattuso, pour revenir à Gattuso, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, j'adorais ce joueur. C'était un.
Mais
c'était plus un excès d'engagement. C'était un surinvestissement.
Moi, j'ai joué. Rino, c'est un petit peu ce que je te disais avec Taribo. Moi, je le connais très bien. C'était mon boy chez les Rangers, Rino. C'est lui qui a tiré mes
joué avec. Oui,
ouais, on est très amis. Et donc Rino, il n'était pas si méchant que ça. Hein.
Voilà,
il avait.
C'était de l'intensité.
C'est ça.
De l'intensité dans
exactement,
les duels.
Exactement. C'est ça.
Et moi, j'adorais ça parce qu'il séchait des joueurs comme ça dans son intensité, dans ses interventions. Mais à chaque fois, il proposait au mec de le relever. Je me rappelle de lui. Assez classe, Gattuso. Merci.
Ouais, non, mais c'est des mecs. Mais tu sais, on parle des autres et tout. Mais moi, je vais te dire, moi, le premier, ça m'est arrivé de faire des conneries. Et Willy, tu vois, il m'a fait penser tout à l'heure. Il disait, il préférait le football de maintenant par rapport à ce qu'on a vécu nous. Je peux te dire que maintenant, tu vois, et coach, tu vas rigoler. Quand tu vois les chaussures qu'ils ont, les mecs. C'est des chaussettes
des de
qu'ils ont.
C'est des feuilles de papier.
En hiver, je peux te dire, un mec qui m'emmerdait sur un corner, je le voyais arriver avec des pompes comme ça, avec ses chaussettes.
Ah, ben tiens.
Comme j'avais des coniques, je lui mettais un petit coup de crampon conique comme ça, et puis il partait.
Ah, mais t'as mal. C'est très bien ce que tu racontes parce que Willy m'avait fait une concession donc, comme ça un jour. Vas-y, finis Lionel.
Donc voilà, tu vois, nous aussi, on avait tous nos petits trucs. Willy, il avait les siens. Le coach, je veux même pas les entendre.
Les gars, vous les gardez, ça m'intéresse vachement. On en est parlé avec Willy sur une soirée Europa League la saison dernière sur comment bien défendre sur les coups de pied arrêtés justement. Willy, il avait son petit truc à lui. Tu le gardes pour toi, Willy, on en parle dans un instant. Allez, beaucoup d'appels plaisir. Au 32-16. Patrick, Benita, merci Kader d'avoir appelé au 32-16. On continue notre thème du soir, bien sûr.
Salut, Kader.
Les bad boys du football.
Salut,
et puis voilà, les petites idées de nos consultants pour intimider un joueur, on va le dire comme ça.